VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les Kenyans aux urnes sans enthousiasme ce jeudi pour élire le président lors d'un scrutin boycotté par l'opposition dont certains partisans bloquaient même l'accès au bureau de vote, ce qui a déclenché des heurts avec la police. Quelque 19,6 millions d'inscrits sont en théorie attendus dans les 40 883 bureaux de vote, mais le contraste d'après l'AFP était saisissant avec l'effervescence qui avait marqué le scrutin présidentiel du 8 août dernier, invalidé par la justice pour irrégularité. Estimant que l'élection de ce jour ne pouvait être transparente et juste, le leader de l'opposition, Raila Odinga, âgé de 72 ans, a appelé ses partisans à rester chez eux ou à participer à des prières collectives à l'écart des bureaux de vote. Le gouvernement du Burundi a adopté un projet de révision de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de briguer dès 2020 deux nouveaux mandats de 7 ans. Cette révision, dont le principe a été adopté mardi au cours d'un conseil des ministres extraordinaire, changerait en profondeur la Constitution du Burundi, issue de l'accord de paix signé en 2000 à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, lequel avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts entre 1993 et 2006. La crise politique qui secoue le Togo depuis 2 mois et fait au moins 16 morts a suscité des appels au dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La France a appelé l'opposition et le gouvernement à un dialogue immédiat pour aboutir à des réformes politiques. Paris demande à Lomé de respecter le droit de manifester. Mardi, les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face à la violence et les restrictions à la liberté d'expression et de rassemblement. Washington estime que le dialogue sans préalable est la seule solution pour sortir de l'impasse. Le président ivoirien Alassane Ouattara aussi a exhorté l'opposition et la présidence à ouvrir des négociations. Selon M. Ouattara, les 5 chefs d'État présents à Niamey pour une réunion de la CEDEAO ont parlé de la situation au Togo. Le gouvernement togolais a établi un projet de modification constitutionnelle qu'il veut soumettre au référendum. L'opposition rejette ce projet. Elle soutient que la limitation des mandats n'est pas rétroactive et permettrait à Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se représenter. La coalition de l'opposition entend poursuivre ses manifestations la semaine prochaine.
À Bangui, il est 12h03.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré mercredi casques bleus et population déplacée à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, ville mise en coupe réglée par les miliciens et où il a fustigé ces groupes armés criminels qui veulent faire du pays, je cite, un enfer. De retour de Bangassou donc, M. Guterres a rencontrer mercredi soir à huis clos, à Bangui, la capitale, des victimes de violences sexuelles et des familles de victimes. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, est arrivée mercredi soir à Kinshasa pour une visite jusqu'à vendredi en République démocratique du Congo, confrontée depuis des mois à une crise politique et humanitaire. Après l'Éthiopie et le Soudan du Sud, Madame Haley va séjourner en RDC jusqu'à vendredi, dernière étape de sa visite africaine démarrée en début de semaine. RDC toujours, un rapport de l'ONU publié hier affirme que 64 civils ont été tués en avril par une milice soutenue par des forces armées dans la région du Kasaï, dans le centre de la RDC, la République démocratique du Congo. Les précisions ?
En avril 2017, les miliciens Banamura ont exécuté sommairement au moins 64 personnes, dont 9 femmes et 21 enfants, et violé au moins 41 femmes, a déclaré hier dans une conférence de presse Abdulaziz Tchoy, chef adjoint du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Il a également ajouté que ces atteintes ont été parfois commises avec le soutien actif de militaires des forces armées de la RDC qui, dans certains cas, ont été directement responsables de l'exécution d'au moins 17 civils, dont un enfant. Dans une note, le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a indiqué que ces violations ont été commises dans le cadre de l'opération de traque des membres de la milice Kamuina Nsapu, et une campagne de représailles contre les communautés Lulua et Luba. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi.
Brazzaville a décidé de dispenser de visa les ressortissants des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, pour un séjour n'excédant pas 3 mois sur son territoire, selon une note circulaire du ministère de l'Intérieur. Le Congo est le 4e pays de la zone à appliquer cette disposition visant la libre circulation des personnes après le Tchad, la République centrafricaine et le Gabon. Au Cameroun, les médicaments pour le traitement des maladies non transmissibles coûtent désormais un peu moins cher, un peu moins cher. Il s'agit des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou encore du diabète et de l'hypertension artérielle. L'accès à moindre coût à ces médicaments a été rendu possible grâce à une convention de collaboration entre une firme pharmaceutique suisse et les hôpitaux d'une congrégation religieuse au Cameroun. Reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Nta.
Les maladies chroniques non transmissibles font rage au Cameroun. Elles sont devenues un problème de santé publique. Les visites effectuées dans certains centres de santé et surtout la demande de certains médicaments l'illustrent à suffisance. Comme ici, à l'hôpital de la Convention Baptiste du Cameroun, de Tougébé à Yaoundé. Gédéon Kemfe, Winsen Yu, technicien en pharmacie.
Il y a une grande demande, même aux pharmacies. Chaque jour, si on voit 100 malades ici, on constate qu'il y a plus de 10 cas d'hypertension, 7 cas de diabète et d'autres secteurs fréquents.
Problème majeur, de très nombreux malades ignorent leur état de santé ou sont diagnostiqués trop tard. À cela s'ajoute la faiblesse de leur pouvoir d'achat pour accéder aux médicaments généralement très coûteux pour les soins de maladies non transmissibles. Trois volets du nœud gordien qui trouvent désormais des solutions dans le programme Novartis Access. Ndassi Cordolia, point focal du programme Novartis Access à l'hôpital de Tougébé à Yaoundé.
Each month we have a plan in our health area. People are aware.
Chaque mois, nous allons vers les gens en les encourageant à faire les bilans de santé. Nous allons dans les églises ou tout milieu associatif de plus de 20 personnes.
Meeting groups and in any group that is more than 20 that people can get the information.
À l'issue de ces campagnes de sensibilisation, l'hôpital grouille désormais de monde. L'achat du médicament n'est plus un supplice pour certains malades. Mohamedou Mokhtar est un patient diabétique.
Mais pour la diabète, qu'on m'a demandé de venir là chaque mois, c'est bien abordable. Ici, dans les 2500, depuis que j'ai commencé ici, je ne suis pas encore allé ailleurs. Ce n'est qu'ici, mais depuis le 4 janvier que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui.
Vous êtes satisfait actuellement?
Ah, ça va, Dieu merci.
C'est en réalité 15 médicaments de haute qualité, les plus prescrits par les médecins, pour les maladies non transmissibles, qui seront disponibles ici, en faveur des couches vulnérables. Didion Kenfe Wensenyu, pharmacien.
Pour le moment, pour un diabète qui prend 2 produits, soit Glibenclémate et Metformine, il dépense presque 5 000 par mois. Avec Novartis, on croit que ça sera 2 500 ou bien moins par mois.
Donc pour celui qui a par exemple l'hypertension.
Pour l'hypertension, ça dépend des produits que celui-là prend. Mais on est en train de travailler avec Novartis pour que chaque produit coûte moins de 1 000 francs par mois, par malade.
Le programme Novartis Access couvre déjà 6 villes au Cameroun, dont 4 en zone anglophone du pays. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
L'Espagne va vivre à partir d'aujourd'hui 2 journées historiques. La Catalogne, une de ses régions les plus riches, sera mise sous tutelle, tandis que les dirigeants catalans pourraient déclarer une indépendance aux conséquences incalculables. Le Sénat doit décider demain vendredi en séance plénière s'il accorde au chef du gouvernement conservateur, au titre de l'article 155 de la Constitution, le pouvoir de destituer l'exécutif indépendantiste catalan, la mise sous tutelle de sa police, son parlement, ses médias publics pour 6 mois, le temps d'organiser dans la région des élections qui remettent tout à plat début 2018. Et puis l'armée irakienne a lancé ce matin une offensive dans les derniers territoires encore contrôlés par le groupe État islamique en Irak, à la frontière avec la Syrie, dans l'ouest du pays, a annoncé le premier ministre Haïdar Al-Abadi. Les membres de Daesh ont le choix entre la mort et la capitulation, a-t-il dit en annonçant le déclenchement de l'offensive. Le califat autoproclamé en 2014 par l'État islamique sur un territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie s'est effondré de facto en juillet avec la capture de Mossoul dans le nord de l'Irak après 9 mois de combats acharnés. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.